chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant la sainteté. Nous arrivons à l'étude numéro 10 et notre thème sera « La sainteté, une affaire qui vous concerne ». Il est dit dans Romains chapitre 6, verset 14, « Car le péché n'aura plus d'empire sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. » Quel que soit le péché ou les problèmes qui vous harcèlent, la réponse est dans la Sainte Bible. Oui, c'est l'espoir. Vous et moi, nous pouvons marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu et vivre une vie de sainteté. En fait, comme nous le verrons à la prochaine étude, Dieu exige que chaque chrétien mène une vie sainte. Il s'agit non seulement d'une exigence, mais c'est aussi le droit inaliénable de tout chrétien. L'apôtre Paul a raison quand il affirme que le péché ne sera pas maître de nous. Du concept de la sainteté émane quelque chose de suranné pour la génération actuelle. Pour certains, il évoque des images de cheveux relevés, de robes longues et de bas noirs. D'autres associent cette idée aux attitudes, ou plutôt aux attitudes rigides, telles que avaient les pharisiens. Voyez-vous, la sainteté est un concept tout à fait biblique, car le mot saint, sous ses différentes formes, ce mot apparaît plus de 600 fois dans la Sainte Bible. Un livre entier, tel que le Lévitique au début de la Bible, le Lévitique est intégralement consacré à ce thème. Et l'idée de la sainteté est omniprésente dans la trame des Saintes Écritures. De plus, Dieu nous recommande tout particulièrement, il nous recommande d'être saints. Notez Lévitique chapitre 11, verset 44. Mais que faut-il entendre au juste par saint? Les conceptions erronées n'ont pas manqué au fil des siècles. Dans certains milieux, la sainteté recouvre toute une série d'interdictions précises concernant généralement le tabac, l'alcool et la pratique d'aller dans des discos, etc. La liste des interdictions varie en fonction des groupes sociaux. Voyez-vous, lorsque nous adoptons une telle approche de la sainteté, nous risquons de tomber dans le même travers que nos amis les pharisiens, notez entre parenthèses, c'est pas tellement nos amis, dans les listes interminables de choses à faire et à ne pas faire servaient leurs attitudes d'auto-justification. Or, pour d'autres, la sainteté équivaut à un style vestimentaire et à certaines manières d'être. Pour d'autres encore, elle signifie une perfection hors de notre portée, une idée engendrant soit les désillusions, soit le découragement face au péché. Eh bien oui, toutes ces conceptions comportent bien sûr une part de vérité, mais ne révèle pas la définition véritable. Être saint, c'est être moralement absolument irréprochable. C'est avoir coupé les ponts avec le péché, et par conséquent, c'est être consacré à Dieu. Si vous voulez, c'est être mis à part pour servir Dieu et se conduire, bien entendu, comme il se doit, à des gens ainsi mis à part. La meilleure façon de comprendre le concept de sainteté consiste probablement à étudier comment les auteurs du Nouveau Testament ont utilisé ce terme. Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, verset 3 jusqu'au verset 7, l'apôtre Paul l'emploie par contraste à une vie d'impureté et d'immoralité. L'apôtre Pierre l'emploie par opposition à une vie consacrée à la satisfaction des mauvais désirs qui assaillent tous ceux qui vivent sans Jésus-Christ. Notez 1er épître de Pierre, chapitre 1, verset 14 jusqu'au verset 16. L'apôtre Jean, lui, il illustre le contraste entre celui qui est saint et ceux qui commettent le mal et se sont souillés, selon Apocalypse chapitre 22, verset 11. Donc vivre une vie sainte, c'est de vivre en conformité avec les préceptes moraux de la Sainte Bible et en opposition avec les voies impures de ce monde. Si vous voulez, c'est de mener une vie consistant à se dépouiller aux égards à votre vie passée, par exemple. C'était mon cas. C'était le vieil homme qui s'est corrompu sous l'effet des convoitises trompeuses. Et, bien sûr, à revêtir maintenant, plus que jamais, l'homme nouveau créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté qui viennent de la vérité. Éphésiens chapitre 4, versets 22 et 24. Si la sainteté est aussi fondamentale pour la vie chrétienne, pourquoi n'en présentons-nous qu'une pâle ou un pâle reflet dans notre vie quotidienne? Pourquoi? Pourquoi tant de chrétiens, semble-t-ils, sont, paraît-il, incapables de s'arracher aux griffes du péché? Ils disent que c'est impossible. Pourquoi l'Église de Jésus-Christ paraît-elle si souvent se conformer davantage au monde environnant que à Dieu? Au risque de simplifier à l'excès, je répondrai que nous avons à faire face à trois types de problèmes particulièrement délicats. Le premier, c'est que notre attitude à l'égard du péché est beaucoup plus égocentrique que théocentrique. Je veux dire par là que nous nous préoccupons davantage de nos victoires personnelles, surtout sur le péché, que du fait que celui-ci, on parle du péché, que celui-ci afflige le cœur de Dieu. Si nous ne supportons pas l'échec dans notre lutte contre le péché, c'est non pas que nous pensons avoir offensé Dieu, mais que nous désirons le succès à tout prix. Donc notre optique du péché n'est correcte que dans la mesure où nous y voyons une offense envers Dieu. Dans ce sens, tout péché est un outrage envers Dieu, envers sa loi, et donc on peut dire sa loi, elle devient maintenant transgressée par notre péché. Son autorité, elle est méprisée, ainsi que son règne qui est en quelque sorte bafoué. Pharaon, Balaam, Saül et Judas, ils disent tous « J'ai péché ». Mais, voyez-vous, le fils prodigue déclare, lui, « Oui, j'ai péché contre le ciel et contre toi ». Et voilà que le roi David, il confesse ceci. « J'ai péché, ô Yahvé l'Éternel, contre toi seul ». Voyez-vous, la volonté de Dieu, c'est que nous marchions dans l'obéissance et pas nécessairement dans la victoire. L'obéissance, elle est centrée sur Dieu. La victoire, elle est centrée sur nous-mêmes. Il vous semble peut-être que je subtilise à l'excès, mais à la base de nos difficultés avec le péché, se trouve tout de même une attitude d'égocentrisme à peine perceptible, car nous ne marcherons avec persévérance dans la sainteté que si nous corrigeons cette attitude et si nous cherchons à nous en débarrasser. Loin de moi la pensée que Dieu ne désire pas la victoire dans nos vies. Bien sûr que je désire avoir la victoire par Jésus-Christ sur mon état de péché. Je tiens seulement à souligner que celle-ci est un sous-produit de l'obéissance. Nous devons apprendre à obéir. Lorsque nous nous efforçons de mener une vie obéissante et sainte, eh bien nous finissons par éprouver la joie de la victoire sur le péché. Notre second problème, c'est notre mauvaise compréhension de la vie par la foi. Notez Galates chapitre 2 verset 20. Nous nous imaginons que nous atteindrons la sainteté sans le moindre effort de notre part. En fait, certains suggèrent même que tout effort personnel viendrait uniquement de la chair. Or, les écrits du fameux homme de Dieu extraordinaire qui a écrit des tas de commentaires bibliques, Ish C. Ryle, il était l'évêque de Liverpool, eh bien, il nous instruit à ce propos. Il dit, est-il bien sage de proclamer aussi clairement, simplement et catégoriquement que le font certains, que la sainteté des chrétiens née de nouveau est exclusivement le résultat de la foi à l'exclusion de tout effort personnel. S'il vous plaît, réfléchissons sérieusement. Est-ce conforme à la sainte parole de Dieu? Eh bien, j'en doute. Que la foi en Jésus-Christ et à la racine de toute sainteté, eh bien, nul chrétien correctement instruit ne saurait le nier. Mais sans nul doute, les Écritures saintes nous enseignent que pour s'appliquer à la sainteté, le véritable chrétien nécessite autant d'efforts et de discipline personnelle que la foi. Il nous faut donc prendre en compte la responsabilité personnelle à l'égard de notre marche dans la sainteté. Un dimanche, au cours de l'office, j'ai entendu proclamer en substance « Vous pourrez vous débarrasser de la mauvaise habitude qui vous prend en tenaille, à condition que vous le souliez, que vous le voulez vraiment, vraiment. » Je répète parce que c'est important. Vous pouvez vous débarrasser de la mauvaise habitude qui vous prend en tenaille, et cela à condition que vous le voulez vraiment, vraiment. Comme il est question d'une habitude précise qui ne me posait guère de problème, je souscrivis immédiatement à cette affirmation. Mais plus tard, l'Esprit Saint m'a révélé cela. Toi aussi, tu peux te débarrasser de ces petits péchés qui te tiennent asservis si tu es disposé à en accepter personnellement la responsabilité. Lorsque j'ai enfin pleinement assumé cette responsabilité, eh bien ma marche vers la sainteté a pris un tournant décisif. Notre troisième problème, c'est que nous ne prenons pas tellement au sérieux certains péchés. Mentalement, nous avons classé nos errements en deux catégories distinctes, ceux qui sont inacceptables et ceux qui sont à peu près tolérables. Or, la Sainte Bible dit que ce sont les petits renards qui ravagent les vignes. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 15. Ce sont donc les compromis sur les points mineurs qui débouchent ensuite sur des chutes vertigineuses. Et qui osera prétendre que cette petite liberté prise vis-à-vis du droit civil n'est pas une faute grave aux yeux de Dieu? Andrew Bonnard, il commente certains des points mineurs de la législation diététique de l'Ancien Testament en ces termes. Ce n'est pas l'importance de la chose, mais c'est la majesté du législateur qui doit être notre critère d'obéissance. Certains considèrent peut-être ces règles comme minimes et arbitraires. Mais le principe concernant l'obéissance et la désobéissance est précisément le même que celui qui s'est joué dans le jardin d'Éden, au pied de l'arbre aux fruits défendus. Tout se réduit donc à ceci. Faut-il obéir au Seigneur en toutes choses, oui ou non? Est-il vraiment le saint législateur? Ces créatures que nous sommes, sont-elles tenues de donner un assentiment absolu à sa volonté? Sommes-nous vraiment disposé à appeler un chat et un péché, peu importe qu'ils soient grands ou petits. Tout simplement parce que la loi de Dieu le réprouve. Toute tolérance vis-à-vis du péché est incompatible avec une vie de sainteté. Dieu ne nous tiendra pas quittes pour une telle attitude. Ces trois problèmes seront donc développés plus en détail un peu plus tard. Mais, avant de poursuivre, je vous recommande de régler sur le champ tout ce qui ne va pas à ce niveau dans votre vie. Allez-vous considérer le péché comme étant une offense faite à un Dieu saint et non plus seulement comme une défaite personnelle? Allez-vous assumer la responsabilité de votre péché, sachant que votre seul recours, c'est la grâce de Dieu? Et allez-vous vous décider à obéir à Dieu dans tous les domaines de votre vie, aussi insignifiant soit-il? À présent, nous allons concentrer, chers amis, dans les prochains CD, dans les prochaines études, notre attention sur la sainteté qui réside en Dieu, car c'est de lui qu'elle tire son origine, non pas de nous-mêmes. Quand nous aurons contemplé la sainteté de Dieu, ainsi que sa pureté absolue et sa haine farouche du péché, alors seulement nous serons terrassés par l'horreur du péché envers lui. Et cette prise de conscience constituera la première étape de notre marche vers la sainteté. Pour aujourd'hui, nous aurons donc que ce très court instant d'étude, mais nous poursuivrons très, très intensivement, parce que le thème est de la plus haute importance. Donc pour l'instant, nous arrêtons ici, et j'ai reçu dans mon cœur de vous transmettre quelque chose pour vous encourager personnellement et aussi pour votre édification personnelle. Car le Seigneur est bon et il veut et il désire vous donner tout ce qu'il y a de plus merveilleux. Alors voici ce que le Seigneur m'a donné par le Saint-Esprit pour vous le transmettre. Quand Jésus est présent, tout est doux et rien ne semble difficile. Mais quand Jésus se retire, tout s'écroule. Quand Jésus ne parle pas au-dedans, nulle consolation n'a de prix. Mais si Jésus dit une seule parole, on est merveilleusement consolé. Marie-Madeleine ne se leva-t-elle pas aussitôt du lieu où elle pleurait lorsque Marthe lui dit « Le Maître, il est là et il vous appelle. » Heureux moment où Jésus appelle des larmes à la joie de l'esprit. Combien sans Jésus, n'êtes-vous pas aride et insensible? Et quelle vanité, quelle folie, si vous désirez autre chose que Jésus-Christ! Ne serait-ce pas une plus grande perte que si vous aviez perdu le monde entier? Que peut vous donner le monde sans Jésus? Être sans Jésus, c'est un insupportable enfer. Être avec Jésus, c'est un paradis de délices. Si Jésus est avec vous, nul ennemi ne pourra vous nuire. Qui trouve Jésus trouve un trésor immense, ou plutôt un bien au-dessus de tout bien. Qui perd Jésus perd plus, et beaucoup plus que s'il perdait le monde entier. Vivre sans Jésus, c'est le comble de l'indigence, mais être uni à Jésus, c'est posséder des richesses infinies. C'est un grand art que de savoir converser avec Jésus, et une grande prudence que de savoir le retenir près de soi. Soyez humble et pacifique, et Jésus sera avec vous. Que votre vie soit pieuse et calme, et Jésus demeurera tout près de vous. Vous ne sauriez vivre heureux sans amis, et si Jésus n'est pas pour vous un ami au-dessus de tous les autres, eh bien n'attendez que tristesse et désolation. Que insensé vous êtes si vous mettez en quelque autre votre confiance ou votre joie. Il vaudrait mieux avoir le monde entier contre vous que d'être dans la disgrâce de Jésus. Qu'il vous soit donc plus cher que tout ce qui vous est cher. Aimez tous les autres pour Jésus, et Jésus pour lui-même. Lui seul doit être aimé uniquement, parce qu'il est le seul ami bon, fidèle entre tous les amis. Aimez en lui, et à cause de lui vos amis et vos ennemis, et priez-le pour tous, afin que tous le connaissent et l'aiment. Ne souhaitez jamais d'obtenir aucune préférence dans l'estime ou dans l'amour des hommes, car cela n'appartient que à Dieu qui n'a point d'égal, mais que Jésus soit en vous et en tout homme de bien. Soyez pur et libre au-dedans, sans aucune attache à la créature. Il vous fait être dépouillé de tout et offrir à Dieu un cœur pur si vous voulez être libre et goûter combien le Seigneur est doux. Et certes, jamais vous n'y parviendrez si sa grâce ne vous prévient et ne vous attire, de sorte qu'ayant exclu et banni tout le reste, vous soyez seul, uni à lui seul. Car lorsque la grâce de Dieu visite l'homme, alors il peut tout, et quand elle se retire, alors il est pauvre et infirme, et ne semble réservé que au châtiment. En cet état même, il ne doit ni se laisser abattre, ni désespérer, mais il doit se soumettre avec calme à la volonté de Dieu et souffrir pour l'amour de Jésus-Christ et tout ce qui lui arrive, car l'été succède à l'hiver. Après la nuit revient le jour, et après la tempête, une grande sérénité. Amen. C'était donc ce que le Saint-Esprit m'a donné pour vous, mes très, très chers amis. Et maintenant, Prions ensemble. Yahvé, Dieu de l'univers, ton nom subsistera à toujours, aussi longtemps que durera le soleil, et tous les peuples te loueront. Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Oui, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus, ô Seigneur, nous osons nous tenir debout devant ta sainte face, en son saint nom. Fais-nous chanter et prier, espérer et croire, servir et agir, vivre et mourir. Entends-nous, ô Seigneur, nous t'en prions, au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et, chers amis, souvenez-vous que Dieu vous aime vraiment. Il aime tous ceux qui ont eu le courage, comme certains, je nommerai Ruth dans la Sainte Bible. Elle était au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, ainsi qu'un nommé Joseph. Oh, ses frères ont voulu le liquider. Mais Yahvé l'Éternel en a pris soin. Oui, sachez que Dieu aime tous ceux qui un jour ont eu le courage, tout simplement, d'accepter sa main tendue, qui ont eu le courage de reconnaître qu'ils étaient pécheurs et perdus. Je faisais partie de ceux-là, car normalement, mon avenir éternel sans Jésus-Christ aurait été en enfer. Eh bien, prions les uns pour les autres et prions surtout pour que Dieu puisse vraiment, par l'Esprit Saint, révéler à des centaines et des milliers de Juifs en Israël qu'il est leur Messie, qu'il est leur espoir. Eh bien oui, c'est notre devoir de prier pour son saint peuple. Bien sûr, il est vrai que les dirigeants ce sont que des hommes pécheurs, a priori perdus, mais tout n'est pas perdu si nous faisons notre devoir de prier pour eux. Alors, chers amis, comme j'ai dit, Dieu vous aime, et il est de mon devoir de vous aimer également de tout mon cœur. Et maintenant je vous enlace, oui, très fort, et je vous embrasse tous, et je vous dis, oui, soyez bénis en et par Jésus-Christ. Et maintenant, j'essaie de vous mettre quelques chants d'un lointain passé. Oh oui, figurez-vous environ 1954. Oh là là, j'étais un jeune homme, évidemment. Et en ce temps-là, je pouvais marcher comme un militaire. Et comment? Mais voilà, mon squelette a diminué, je suis devenu un peu plus petit, et cela était au détriment du canal Lambert, ça s'appelle, qui est maintenant quelque chose d'affreux qui presse sur les nerfs. Et croyez-moi, ça fait mal. Mais je tiens le coup. Oh, pas par moi-même, ça ne serait pas possible. Mais par la main tendue de notre divin Sauveur, qu'est-ce qu'il est merveilleux, notre Sauveur Jésus, notre Seigneur, Roi des Rois. Oui, eh bien, soyez donc bénis. Et maintenant, j'essaye de mettre ces quelques chants d'autrefois. Essayons si ça fonctionne. Parfois, ça va pas mal, mais parfois, il y a des ratés. Essayons donc. Cette fois, c'est en français.
Dans ce temple, nous vivrons pour l'éternité dans la présence de Dieu. Pourquoi refuser l'invitation de celui qui a tout abandonné pour vous?
Tu ressens le poids de tes péchés.
Alléluia.
Que tu as campé.
Alléluia.
Choses ont disparu là-haut dans.